d'anglais, qui est une universitaire, qui est maître de conférence à l'université de Toulouse, spécialiste aussi du théâtre et du théâtre américain, qui a donc écrit ce livre d'entretien qui vient de sortir, Anne-Line, hein, je crois que c'est tout frais, sur Avignon 1968 et Living Théâtre. Denis Guénoun, que je présente, même si bien sûr nous le connaissons, et c'est un ami de la Maison Jean Vilar, et notre vice-président jusqu'il y a peu de l'association Jean Vilar. Eh bien, Denis, qui est un homme de théâtre, un metteur en scène, un auteur, docteur en philosophie. Quand on lit la biographie de Denis Guénoun, bon, on sait comment le présenter. Voilà, et qui a donc écrit ce texte, mai-juin-juillet, qui a été présenté en 2012 au TNP et en 2014 au Festival d'Avignon. Hein, Denis, tu nous en diras plus de toute façon. Alors, raconter 68... Quelle complexité, d'autant que il y a autant de 68 sans doute que de gens qui l'ont fait, ou de gens qui... Ah, voilà, 68 qui tombent déjà. Donc ce que je vous proposerai en préalable, Denis et Emeline, c'est peut-être de donner quelques repères de cette histoire. Voilà, des repères sur les événements, sachant que le livre de Denis s'appelle bien justement « Mai, juin, juillet » et qu'on ne peut pas parler de juillet si on n'a pas en tête de ce qui a abouti, en fin de compte, à ce qui va se jouer ici à Avignon en juillet. Donc Denis, tu te mets à cet exercice impossible de résumer en quelques mots cette histoire exceptionnelle de 68.
Merci Nathalie, bonjour, bonjour à vous, aux nombreux amis connus et inconnus qui sont dans cette assistance et qui d'ailleurs pour certains ont non seulement vécu de très près, parfois même ils ont agi dans les événements dont nous allons parler. Et on en présentera tout à l'heure certains s'ils le veulent bien. Je ne vais pas du tout raconter les événements de juillet 68 à Avignon. C'est Emeline qui a accepté de se charger de cette tâche assez difficile, de les résumer, alors qu'ils sont très complexes. Je voudrais essayer brièvement de les situer à partir de trois idées, trois questions très simples. La première, c'est ce que vient d'évoquer Nathalie à l'instant, c'est que juillet 68, excusez la stupidité du propos, c'est après mai et juin. Or, en fait, nous, en 68, alors, je vais faire un arrêt sur ce nous, nous disions tout le temps mai-juin. Juste après les événements, on disait mai-juin. Moi, personnellement, j'avais 22 ans, 68, et il est important de préciser que je ne suis pas venu au Festival d'Avignon cette année-là, ce qui était pour moi très inattendu. Parce que j'habitais à Avignon, j'avais habité à Avignon un peu avant, j'étais lycéen au lycée Mistral en retour d'Algérie à partir de 61, entre 61 et 63, j'étais lycéen en première et terminale, j'avais vécu à Avignon, j'avais noué des amitiés essentielles, j'étais rentré au Parti communiste, qui était une tradition familiale, mais où j'avais été beaucoup influencé aussi par des rencontres, dont celle de Luc Doumain qui est ici et de sa famille. Père de Luc Doumain, qui était journaliste à la Marseillaise, à Avignon, et Luc et moi étions condisciples au lycée. Et puis, j'étais donc baigné dans Avignon. J'avais découvert la Cour d'honneur en 61. C'était pour moi, enfin, voilà, c'est une autre histoire que je pourrais raconter. Mais je ne suis pas venu au Festival 68, alors que je suis venu beaucoup avant, jusqu'en 67 inclus, et après. Pas plus d'ailleurs que je n'étais présent à l'Odéon au mois de mai, et à Villeurbanne au mois de juin. Donc je vais témoigner d'une impression, mais pas en tant que témoin direct, en tant qu'homme qui a vécu cette époque, dans sa jeunesse, et qui l'a étudié ensuite, d'un point de vue historique. Mais juin, c'est une très grande... On va les poser, ces livres, hein, ça, je ne sais pas... Maintenant, vous les avez vus. Tiens, voilà, je prends celui d'Emeline et tu prends le mien. C'est mieux. C'est mieux. Bon, c'est évidemment une insondable banalité que de dire que mai-juin a été une secousse sociale extraordinaire. Mais ça a été à la fois, et difficile à mesurer ensemble, une très profonde secousse sociale et une série d'événements politiques.
sur le moment, les événements politiques ont été évidemment plus circonscrits que la secousse sociale dont on a pris la mesure qu'ultérieurement. Les événements politiques, comme vous le savez, se sont traduits par un immense mouvement de... Moi, je n'hésite pas à appeler ça d'insurrection, insurrection très profonde, qui a commencé par une insurrection étudiante, puis qui s'est développée par une extraordinaire grève ouvrière d'abord, et dans, pas seulement ouvrière, des ouvriers, des employés, dans tous les lieux de travail en France. Je crois, en tout cas on le lit assez souvent, que c'est le mouvement social, la grève en tout cas, la plus ample et la plus longue de l'histoire moderne, pas seulement en France. C'est la plus grande grève illimitée avec occupation des usines de toute l'histoire moderne. En tout cas, je l'ai lu et à ma connaissance, ça n'a pas été démenti depuis. Donc c'est un mouvement social, là, au sens sociopolitique, d'une extraordinaire profondeur. Pendant longtemps, on a pensé, disons pendant tout le mois de mai pour simplifier, ce mouvement a été ascendant et il semblait qu'il mettait en cause la, la domination du pouvoir politique du général de Gaulle et de son gouvernement. Et même, en un certain sens, du pouvoir économique. Ça a culminé, comme vous savez, à l'extrême fin du mois de mai, et à la suite des événements sur lesquels on reviendra peut-être, qui sont très passionnants et très spectaculaires, à la fin du mois de mai, il y a eu une espèce de renversement qui s'est amorcé. Et tout au long du mois de juin, la grève a décru, les retours au travail a été absolument pas immédiat, mais progressif, et à peu près irréversible. Et ça aboutit au fait que, à la surprise de beaucoup, à la fin du mois de juin, il y a eu des élections législatives. Et ces élections législatives ont été gagnées très massivement par les soutiens du pouvoir politique en place, c'est-à-dire par les gaullistes, la droite conservatrice, plus ou moins modérée. Il y a eu une chambre introuvable, une assemblée nationale qui a été élue, qui était très largement dominée par la droite. Donc un échec politique à peu près complet et cuisant. Et fin juin, on en est là. Un extraordinaire mouvement et puis une défaite politique. Voilà. Commence le mois de juin. Alors, il est absolument essentiel, me semble-t-il, de se remettre à l'esprit cette situation pour comprendre comment on a pu vivre ce mois de juillet. Parce que le mois de juillet, c'était à la fois l'après-coup de la défaite, bien sûr, mais c'était aussi l'après-coup de cette insurrection qui avait secoué, c'est même peu dire, ce qui avait renversé pendant un temps toutes les structures de la société française. Voilà. Au point que, voilà, c'est le premier point que je voudrais rappeler, il me semble que la défaite, sur le moment, paraissait presque superficielle. La défaite politique paraissait conjoncturelle, provisoire et presque superficielle. En fait, le sentiment que les gens, et en particulier ceux qui avaient été favorables à ce mouvement, avaient de cette insurrection, était beaucoup plus profond que le sentiment de son arrêt. Donc en juillet, tout était arrêté, il y avait les vacances, donc les facs étaient en vacances, les examens n'avaient pas eu lieu, ils avaient été reportés à l'automne, même les concours nationaux n'avaient pas eu lieu, bon voilà. Donc le mouvement de fête s'interrompait, le travail avait repris dans les entreprises, bon voilà. Il y avait une évidente défaite, mais le sentiment de la profondeur de la secousse était beaucoup plus grand que le sentiment de son échec. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'il faut se souvenir de ça pour comprendre comment nous avons abordé, comment les gens qui l'ont vécu ont abordé ce mois de juillet. Maintenant, je voudrais dire un deuxième point, je voudrais évoquer un deuxième point qui est celui, ce qu'on pourrait appeler les forces sociales en présence à Avignon. Il y a ici des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi et qui en étaient, disons, les participants directs. Là, c'est un peu en tant que, disons, quelqu'un qui a étudié sur ces événements et puis qui a un peu vécu ici que je voudrais le dire. la situation sociale à Avignon était très complexe et très diversifiée. Par exemple, prenons l'exemple du public du festival, dont il va être question dans ces événements. Le public du festival, c'était en majorité des gens faisant partie du public qui avait été celui traditionnellement du TNP dans les années 50 et 60, passablement transformé au cours des années 60, c'est-à-dire de gens, on peut dire, qui dans leur ensemble étaient sensibles au mouvement culturel, sensibles au mouvement social, globalement plutôt de gauche, même si ce n'était pas exclusif bien sûr, globalement plutôt de gauche, et donc je veux le dire, là, dans leur grande majorité, favorable à ce qui venait d'avoir lieu. Pas du tout adversaire, je parle du public du festival. Favorable à cette espèce de soulèvement social, politique et culturel. Voilà. Ça, c'était une première dimension, c'est évidemment pas la seule. Il y avait une deuxième dimension, des composantes qui sont intervenues dans les événements d'Avignon, qui était un petit groupe, je ne vais pas du tout le mépriser que de dire qu'il était petit, un groupe peu nombreux, de gens extrêmement déterminés, qui avaient participé aux événements parisiens, qui avaient mal admis leur arrêt, leur interruption, et qui étaient venus à Avignon, ayant pour des raisons sur lesquelles on va revenir, l'impression que des choses pouvaient se poursuivre à Avignon. Certains d'entre eux sont très célèbres, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. On cite souvent le nom de Jean-Jacques Lebel, qui maintenant est au centre de la vie artistique. Mais il y en avait d'autres, mais en nombre, ce n'était pas beaucoup de gens. Non. Il y avait des gens, il y en a ici, venus de loin, de France. On a vu Bernard Bloch qui est là, qui est un des intervenants du livre, que j'ai connu juste après ça, et qui est venu, tu diras si tu veux Bernard, qui est venu d'Alsace pour assister au festival dans les conditions de l'immédiat après mai juin. Donc un petit groupe de gens extrêmement déterminés et une grande masse de gens, disons, intellectuellement, culturellement, disponibles à cette poursuite, à cette fidélité à ce qui venait d'avoir lieu. Et puis il y a d'autres gens. Il y avait, on dit, la population avignonnaise, les Avignonnais. Certains ici les connaissent bien mieux que moi, mais les Avignonnais, c'était très divisé. Il y avait des militants ouvriers, des militants syndicalistes, il y avait des centres ouvriers importants, par exemple les cheminots, que Luc connaissait bien, les cheminots, leur organisation CGT, on y reviendra. Il y avait des gens qui s'étaient impliqués, il y avait des enseignants, il y avait des employés qui avaient participé à ce mouvement Avignon comme ailleurs, pas comme ça. Se faire à Paris, mais à Avignon aussi, bien sûr. Il y avait ça. Et il y avait aussi, dans le public avignonnais, les habitants d'Avignon, il y avait des gens qui étaient très hostiles à ce mouvement. Extrêmement hostiles, organisés ou pas, et parfois organisés politiquement, à droite et à l'extrême droite, avec de nombreuses circulations entre la droite et l'extrême droite, et qui faisait partie de cette situation-là. Et dans cette situation, on pourrait citer encore beaucoup d'autres exemples, il y avait par exemple un collège universitaire qui venait d'ouvrir à Avignon, peu d'années auparavant. Et les Avignonnais comme moi allaient faire leurs études, soit à Aix, ça a été mon cas, soit à Montpellier, ça a été le cas d'autres, certains de mes amis, pour des raisons de choix, de famille, etc. Et il n'y avait pas de fac à Avignon. Juste avant, dans ces années-là, dans les années 60, il y a un collège universitaire qui a ouvert, qui, sauf erreur de ma part, se trouvait rue Joseph Vernet, dont les premiers locaux se trouvaient rue Joseph Vernet, qui était un petit noyau, mais où il y avait quelques centaines, enfin, je ne sais pas, il me semble, je crois que c'était 200 étudiants au départ à l'ouverture, et puis une ou deux écoles supérieures. Voilà. Et puis aussi beaucoup d'autres choses, parmi lesquelles se sont trouvés les protagonistes de ces événements dont nous allons parler tout de suite, puisqu'il y en a qui sont aussi dans la salle. C'est la deuxième chose que je voulais dire, la complexité de cette situation sociale. Puis la troisième chose, c'est le risque de l'illusion rétrospective. Nous voyons, nous, les événements du Festival d'Avignon, à partir de ce qu'ils sont devenus, à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été après. Nous voyons des camps très tranchés. Nous voyons Villard et l'équipe de direction du festival, les gens qui lui étaient fidèles. Nous voyons face à lui les adversaires. Nous entendons les cris et les insultes qui ont résonné à son égard, bien sûr. Mais ça, ce sont des événements qui ont eu lieu en cours de route et dont le retentissement a été ultérieur. De manière générale, lorsque nous parlons de 68, nous avons tendance à appeler 68 quelque chose qui n'est pas 68, mais qui est l'immédiat après 68. Ce que nous appelons 68, l'ambiance que nous croyons être celle de 68, c'est celle des années 68-75. Je choisis 75, on pourrait discuter le repère. Nous appelons 68, mais la France de 68 n'était pas la France de 72-74, puisque la France 74 était le résultat de 68, l'effet, le contre-coup de 68. La France de 68, c'était en grande partie la France d'avant 68. De tous les points de vue, par exemple vestimentaire. Et quelques-uns d'entre nous qui sont ici, si nous prenons des photos de nous à cette époque-là, nous sommes d'avant 68. Hein. Et les photos de nous comme 68ards, elles sont postérieures. Je ne peux en témoigner, mais quelques-uns ici peuvent le dire clairement. Donc en fait, il y a ce risque de l'illusion rétrospective, très fort. Et 68, c'est le moment de la coupure, du changement, de la transformation. Et cette transformation s'est opérée en cours de route. Et donc c'est une erreur de perspective de voir les choses à partir de la situation qui a été créée par ces événements. Et dans le théâtre en particulier, par ce dont nous allons parler maintenant.
Merci Denis de ces éclairages, de ces repères sur ce mouvement social, intellectuel, culturel qui vient se cristalliser à Avignon. Alors on dit en juillet, pour mémoire, c'est le Festival d'Avignon 68, c'est 17 juillet, 14 août. Hein. Cette fameuse semaine d'art, c'était en septembre en 47. Alors voilà, donc rappelons-nous que le Festival d'Avignon, c'est pas forcément exclusivement le mois de juillet, ni en 47, ni même du coup en 68, puisque c'est 17 juillet, 14 août. Alors on va donc demander à Emeline maintenant de se frotter un autre exercice, difficile aussi, c'est-à-dire de nous donner quelques repères de ce qui s'est passé effectivement en juillet-août 68. Quelques repères, Emeline, merci.
Alors, juste aussi, comme l'a fait Denis, et comme on le faisait beaucoup en 68, je vais vous dire d'où je parle, puisque je crois qu'en 68, alors je dis je crois, moi je n'étais pas là en 68, vous l'aurez peut-être deviné. Donc j'ai fait un travail d'archives, notamment ici à la BNF, et d'autres bibliothèques aux États-Unis notamment également. J'ai rencontré des gens, donc je vais essayer en fait de vous proposer un résumé, qui est un résumé factuel. Alors forcément, même si j'essaye de ne pas prendre de parti pris, il y a toujours un parti pris, donc voilà. Mais en tout cas, je vais essayer de vous proposer une chronologie de ce qui s'est passé en juillet. Donc avec ce d'où je parle d'une, c'est une parole d'universitaire qui a fait des recherches sur le sujet et qui n'a pas vécu les événements de 68. Alors, ma porte d'entrée, c'est le Living Théâtre, puisqu'en fait, le Living, qui était une compagnie américaine, a été invité en 68 au Festival d'Avignon. Alors, c'est une porte d'entrée qui est intéressante parce qu'elle a cristallisé en fait beaucoup de passions et beaucoup de fantasmes quant à ce mois de juillet et puis après le mois d'août 68, et ils sont partis. Et ce qui est intéressant par rapport au contexte général, c'est de se rappeler qu'en fait, juillet 68, tel que le festival l'avait imaginé, c'est un festival qui s'inscrit dans un tournant, puisque dès 63, vous savez que le Jean Villard arrête ses fonctions en tant que directeur du Théâtre National Populaire. Le Théâtre National Populaire reste invité au festival, mais il y a une vraie ouverture à partir de 63. Et cette ouverture à l'international, à la jeunesse et aux rencontres est encore plus affirmée dès 67. Donc, lorsqu'en 68, le festival a lieu, ce festival est dans la continuité de la volonté de l'équipe de Jean Villard, qui est une volonté d'ouverture. D'où l'intérêt d'inviter le Living Théâtre, qui était une compagnie. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de fantômes sur le Living Théâtre, et on a un des acteurs du Living Théâtre des années 60, qui est là, Hans Echnaton. Donc, le Living Théâtre, aujourd'hui, voilà, on a beaucoup aussi de représentations qui sont très fantasmagorique. À l'époque, le Living Theatre était une compagnie qui était connue et reconnue, invitée par des grands théâtres, l'Odéon, Chaillot. Voilà, ils avaient vraiment une assise très importante et il était très certainement logique pour le festival d'inviter cette compagnie qui représentait la jeunesse, qui représentait l'ouverture, qui était une compagnie américaine, donc une ouverture aux formes et à l'international. Donc, Paul Puot propose à Jean Villard d'inviter le Living. Donc l'invitation au Living est faite en 67. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que le Festival d'Avignon, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'était pas effectivement comme on le connaît aujourd'hui, le Festival d'Avignon n'avait pas d'identité juridique. Donc en fait, le Festival d'Avignon, c'était Jean Villard qui était directeur artistique, mais c'est la mairie d'Avignon qui avait les cordons de la bourse et qui signait les contrats. Donc ça, c'est vraiment important parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par le fait qu'en fait, il y avait l'équipe de Jean Villard, les artistes, la mairie d'Avignon et le public. Et dans le public, il y a notamment les contestataires. Et la mairie d'Avignon a aussi joué un rôle très très important. Donc en 67, on ouvre le festival, Jean Villard et son équipe invitent le Living, mais ils invitent aussi d'autres compagnies, Béjart, le ballet du XXe siècle, des compagnies françaises, Wilson est invité, Lavelli est invité, il y a des spectacles musicaux qui sont proposés. Donc voilà la programmation qui était prévue en 67. Les événements dont nous a parlé Denis ont lieu. Le premier événement qui est marquant, c'est effectivement la prise de l'Odéon. Je pense que Denis reviendra tout à l'heure puisqu'il a travaillé beaucoup sur cette période-là et notamment sur la figure de Barrault. La prise de l'Odéon est importante parce que c'est le 15 mai, l'Odéon est envahi, si je puis dire, par les contestataires. L'Odéon, Théâtre de France, donc représentait l'institution que donc les enragés, comme ils se nommaient à l'époque, et les enragés, alors je fais vraiment des gros raccourcis politiques, hein, parce que c'est vrai que politiquement c'était une mosaïque de dissidentes, donc c'est qui est passionnante. Donc voilà, les enragés, c'est ceux qui étaient contre le pouvoir, mais aussi contre le parti communiste, et je pense que Denis reviendra. Donc se saisissent de ce lieu qui est le théâtre de l'Odéon. Il y a 3000 personnes qui rentrent dans l'Odéon, là où l'Odéon pouvait en accueillir 1000. Et notamment, parmi ces personnalités, il y avait le Living Theatre. Alors, le Living Theatre, déjà en mai, il y avait Julian Beck, plus précisément, et Judith Malina, qui étaient donc les fondateurs de la compagnie. Donc, le Living est déjà en France à partir de mai. Et les autres membres de la troupe, dont Hans, étaient à Avignon. Et ça, déjà, ça a été un événement qui a été important pour la suite de la contestation. C'est que le Living arrive en mai 1968 à Avignon, alors qu'on les attendait en juillet. Donc il y a eu un petit ajustement logistique qui a dû être fait, qui a été conséquent, puisque le festival n'était pas prêt pour les accueillir. Il était d'ailleurs aussi stipulé par contrat que le logement devait être à la charge de compagnie. Mais là, Paul Puot, fait de son mieux pour les accueillir, met à disposition le lycée Mistral qui était à l'époque là où se trouve la médiathèque. Hein, c'est une médiathèque. Ouais. Ces gens du Living arrivent à Avignon avec les cheveux longs, ils sentent le patchouli, on les remarque dans la rue, dans un Avignon, comme le disait Denis, qui est traversé par différentes dynamiques. Comme le disait Denis, il y a eu la dissolution de l'Assemblée, il y a des élections, et Avignon qui était socialiste, le maire qui était Henri Dufaux, donc responsable, je le répète, administrativement et juridiquement du Festival d'Avignon, était député jusqu'à présent, et il perd les élections en faveur d'un candidat beaucoup plus à droite, qui s'appelait Leroux, et qui a fait sa campagne notamment un peu sur le dos du Living en disant « Mais regardez cette mairie de gauche qui fait venir des chevelus drogués, des désœuvrés freudiens. » Alors là, je cite un tract de la campagne. Donc c'est complètement, voilà, c'est la socialiste avignonnaise est dégénérescente, donc dégénérée plutôt. Donc voter pour nous, et effectivement Roux a remporté la députation. Donc on avait aussi sur Avignon une césure entre une tradition socialiste et puis là voilà, cette population qui avait voté largement à droite, et comme le disait Denis, aussi des militants notamment communistes qui déjà avaient fait des manifestations depuis les mois de mars, mai sur Avignon. Donc pendant ce temps, Julien Beck, alors que les membres de la compagnie sont ici à Avignon, le fondateur Julien Beck et Judith Malina sont eux à l'Odéon, ils prennent l'Odéon. Alors c'est, il y a des archives qui sont assez, enfin qui sont vraiment très très intéressantes, puisque déjà le Living Théâtre articule le paradoxe, hein, c'est-à-dire que le Living dit ben nous notre manière de faire la révolution c'est de continuer à jouer. Là où je rappelle, donc il y avait une grève qui touchait également les intermittents, puisque les comédiens ne jouaient plus. Il y avait, voilà, les comédiens français étaient eux aussi en grève, le TNP était en grève, les comédiens de la Vélie étaient en grève. Donc ce qui aussi a eu une conséquence forte pour le festival, puisque l'équipe du festival a pris la décision de recentrer le festival 68 sur les compagnies étrangères, partant du postulat que les compagnies n'ayant pu répéter, il est impossible qu'au mois de juillet de présenter des spectacles. Donc le festival 68, à partir du mois de juin, est réduit à Béjart et au Living Théâtre. Alors plus tard, cette décision de l'équipe de Villard a été remise en question, notamment par les comédiens de la Vélie qui publient dans la presse un article en disant que si on leur a demandé, ils auraient pu jouer et ils auraient été prêts. Voilà, donc on voit que les prises de décision sont un peu floues, certains considérant qu'elles étaient unilatérales. Donc c'est intéressant de garder en mémoire le fait que quand le Living s'exprime à l'Odéon, ils disent nous notre façon de faire la grève, de contester plutôt, c'est de jouer. C'est par le théâtre que l'on va jouer. Le Living Théâtre propose un théâtre révolutionnaire. Alors Avignon, ça a été un tournant dans leur carrière aussi artistique, dans la mesure où jusqu'à présent, ils proposaient des spectacles qui étaient vraiment des spectacles de la contestation. Je fais vraiment des grosses généralités, pour dénoncer les abus sociaux. À partir d'Avignon et à partir de Paradise Now, non seulement ils vont dénoncer les abus sociaux, mais ils vont aussi proposer en fait des solutions. Et Paradise Now, qui est une création du Festival d'Avignon, puisque lorsque les compagnies venaient jouer à Avignon, il fallait qu'ils proposent trois spectacles, dont une création, c'était Paradise Now. Dans Paradise Now, en fait, il y avait un processus d'inclusion du spectateur, donc il y avait une participation du spectateur. Et lors durant la représentation, le spectateur allait lui se métamorphoser à la fin du spectacle, devenir un homme primitif qui ne serait qu'amour, beauté et joie, et donc qui pourrait répondre à la bonne parole et faire que le monde effectivement serait révolutionnaire, parce qu'il aurait été révolutionné, il aurait été complètement différent. Donc 68, c'est aussi très important dans la carrière du Living, parce que leur proposition artistique change. Et qu'elle va vers un théâtre révolutionnaire qui n'est pas un théâtre uniquement de la contestation, mais qui va proposer une solution. Alors après, est-ce que cette proposition est réaliste ou pas ? Voilà, ça appartient à chacun, mais en tout cas, ils avaient cet objectif-là. Lorsque le général de Gaulle demande à ce que l'Odéon soit, et la Sorbonne soient évacués, Lorsque le général de Gaulle dissout l'Assemblée, Villard est assez choqué par les prises de position du gouvernement et surtout par les prises de parole et la façon dont le général de Gaulle parle de cette jeunesse-là. Et donc, à partir de juin, il écrit un article qui sera largement diffusé, en disant que, suite aux prises de position du gouvernement, il refuse d'être à la direction d'un projet d'opéra populaire. Donc on voit aussi que le Festival d'Avignon, enfin Villard en tout cas, prend des positions par rapport au gouvernement. Et plus tard, quelques jours après, dans le Nouvel Observateur, un article de Villard est publié, où Villard dit « Le Festival d'Avignon 68 sera un forum international pour la jeunesse, hein, et ce sera l'occasion de débattre ». Donc, lorsque le festival commence, Villard et son équipe ont en tête le fait que, effectivement, le débat sera ouvert, la parole va circuler et que ce festival-là voilà, va prendre en charge aussi une parole politique qui a été déjà proposée durant le mois de mai. Donc le festival démarre en juillet. Le premier événement qui va vraiment bousculer le cours de l'histoire avignonnaise, c'est la non-représentation de la paillasse au sein nu de Gérard Gélas. Donc Gérard Gélas, qui était, je crois qu'il n'était pas majeur encore à l'époque, qui était jeune metteur en scène, c'était sa première mise en scène, propose la paillasse au sein nu. Donc la paillasse au sein nu, c'est la République, proposer une mise en scène à Villeneuve-les-Avignon. Et bien avant la représentation, le préfet du Gard interdit la représentation. Alors, le préfet du Gard, qui n'était pas le préfet du Vaucluse, hein, donc déjà, enfin, c'était donc le préfet d'un autre département, cette interdiction va forcément avoir des répercussions, puisque très tôt, l'équipe du festival et le Living vont manifester leur mécontentement en disant il faut qu'on prenne position. Villard propose de continuer à jouer, mais d'exprimer leur insatisfaction face à la censure. Il est proposé aux membres du Living de venir s'asseoir sur le plateau de Béjart avec des sparadraps sur les lèvres pour manifester la censure. Et le Living dit « Ah ben non, on ne va pas jouer. La paillasse au sein nu ne peut être jouée, nous, on s'arrête de jouer. » Donc déjà, il y a un petit hiatus par rapport à ce qui avait été dit à l'Odéon et le fait que nous, Living, on continue à jouer, c'est comme ça qu'on fait la révolution. Voilà. Et en fait, pendant tout le festival, il va y avoir de la part du Living des prises de position plus ou moins ambiguës avec « on joue, on joue pas, on joue, on joue pas ». Donc voilà. Donc, et peut-être un autre aspect qui est important. Donc quand Paradise Now est proposé, il y a tout un. Je pense que on a tous en tête cette phrase célèbre Béjart, Villard-Béjart, pas Saint-Lazare, qui était scandée notamment donc lors de la première de Paradise Now, où il y avait une foule immense qui voulait rentrer. Notamment des contestataires. Le Living voulait des invitations, on leur a dit non, par contrat, vous avez eu tant d'invitations, vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Et donc il y avait un problème aussi de sécurité. Beaucoup de gens voulaient rentrer, mais la jauge n'était pas suffisante et Villard et son équipe craignaient pour la sécurité des gens. Et donc il y a eu une prise. Il y a eu une sorte de prise de la Bastille, d'ailleurs c'est comme ça que Julian Beck, qui s'était accroché aux grilles, appelait les carmes en disant voilà, nous on veut jouer pour tout le monde, mais on nous empêche de jouer pour la population. Alors, donc il y a eu plein d'événements comme ça, puis finalement, pour des raisons peut-être sur lesquelles on reviendra plus tard, la mairie, et pas Jean Villard et pas son équipe, mais la mairie, demande au Living de supprimer les représentations de Paradise Now pour deux raisons. La première, c'est parce que il y a eu des images qui ont été diffusées sur l'ORTF et que la nudité a choqué les Avignonnais. Donc pour la bienséance, ce spectacle ne peut avoir lieu, d'après le maire. Et ensuite aussi, puisque la pièce se terminait dans la rue et que ça causait des nuisances sonores. Donc pour ces deux raisons, la mairie demande au Living de remplacer la pièce. Le Living, après avoir accepté, refuse finalement et décide finalement de partir et de ne pas honorer leur contrat pour lequel ils ont été payés. Donc aussi, il y a plusieurs débats là-dessus. Et donc le 31 juillet, donc ils partent et le festival continuera avec tout le mois d'août. Avec des musiciens et des spectacles musicaux, il y a aussi des projections cinématographiques et le seul spectacle qui reste, ce sont les spectacles de Béjart. Voilà.
Merci de ce résumé qui montre bien la complexité des chronologies, la complexité des acteurs. Alors quand on a préparé cette rencontre, Denis, Emeline et moi, on s'est dit mais par quel bout le prendre ? Sachant qu'on a 1h30 pour cette chose-là et que chacun peut bien entendre dès maintenant à quel point c'est un exercice impossible. Alors, moi, il me semble qu'effectivement, on va repartir, non pas tant des ouvrages écrits par Emeline et Denis, que de la manière dont ils ont essayé de se saisir de l'histoire.